Ignace Mouvana Chakaï Satan Moutouni, président et vice-président des FDLR, ont été condamnés hier lundi à 13 ans et 8 ans de prison par la justice allemande. Ils sont accusés d'avoir orchestré depuis l'Allemagne des crimes contre l'humanité et de guerre dans l'Est de la RDC. Quelle analyse faire de ce verdict? C'est notre thème de ce soir. Et pour en parler, je reçois Julien Paluku, gouverneur de la province du Nord Kivu. Monsieur le gouverneur, bonsoir.
Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir à tous les auditeurs de la radio.
Descartes Mpongé, président de la société civile du Sud Kivu. Monsieur Mpongé, bonsoir.
Bonsoir, messieurs les journalistes, et bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment.
Maître Richard Bondo, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe et président de l'ONG Avocats sans frontières. Il est aussi conseiller près la CPI et le tribunal spécial pour le Liban. Bonsoir, maître.
Bonsoir.
Merci de nous recevoir chez vous.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le président et le vice-président des FDLR, Ignace Mouvana Chakaï et Satan Moussouni, ont été condamnés hier lundi à 13 ans et 8 ans de prison par la justice allemande. Crimes contre l'humanité et de guerre commis dans l'Est de la RDC sont les faits pour lesquels ils sont accusés. Thérèse Kankuntamboué.
Depuis le 4 mai 2011, les deux hommes âgés de 51 et 54 ans devaient initialement répondre de 26 crimes contre l'humanité et 39 crimes de guerre commis en 2009, ainsi que de la direction d'une entreprise terroriste à l'étranger. Mais la Cour avait finalement abandonné les trois quarts des accusations pour se concentrer sur le meurtre. En délivrant le verdict, le juge Jürgen Ethik a déclaré, je le cite, « Il ne s'agit pas d'un procès politique, mais d'une procédure pénale d'une ampleur particulière. » Fin des citations. Il faut noter que ce procès a été marqué par des problèmes des traduction et des pressions sur les témoins, d'autant qu'il s'est aussi heurté à l'éloignement géographique et la nature collective des massacres, selon le professeur Andrzej Umanowski, spécialiste de droit pénal à l'université de Cologne.
Réagissant à ce verdict, le gouvernement de la RDC dit avoir appris avec satisfaction la nouvelle. On écoute la réaction du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement qui salue la sentence. Lambert Mende a été joint par Jeff Ngoy.
Le gouvernement congolais est très satisfait de la sentence de la justice allemande à l'encontre de ces deux leaders de la force négative FDLR, puisque cette sentence fait reculer les limites de l'impunité. Parce que nous sommes tout à fait conscients que c'est l'impunité qui nourrit la persistance de ce phénomène à l'est de notre pays, de gens qui sont venus après avoir causé tant de ravages chez eux et qui prétendent nous imposer leur présence ici, qui détruisent notre écosystème, tue notre population et refuse de se laisser désarmer et se battent même contre nos forces armées lorsque nous voulons les désarmer par la force. C'est donc un message tout à fait clair. Les deux leaders qui viennent d'être condamnés en Allemagne font partie de ceux qui encourageaient leurs compatriotes de FDLR à rester en République démocratique du Congo et nous pensons que c'est un signal qui va certainement impacter l'attitude des autres chefs de ce mouvement négatif.
Autre réaction, c'est celle de l'ONU International Human Rights Watch qui, dans un communiqué publié hier à l'issue du verdict, déclare qu'il s'agit d'un signal fort pour d'autres chefs rebelles impliqués dans des crimes graves en RDC. Gisèle Cage de Pigoma.
Justice est enfin rendue à des milliers de Congolais ayant subi des graves abus de la part de FDLR, selon Human Rights Watch, dans son communiqué d'hier. Ignace Mouvana Chakaï a été reconnu coupable de crimes de guerre en lien avec 5 attaques commises par le FDLR dans l'est de la RDC et pour avoir dirigé une organisation terroriste. Quant à Satan Moussouni, il a été jugé coupable de diriger une organisation terroriste, mais acquitté pour l'accusation des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Pour Human Rights Watch, les crimes commis par d'autres chefs rebelles ne resteront pas impunis. Géraldine Macioli, Zelterne, chercheuse à Human Rights Watch.
Les personnes qui sont impliquées dans des crimes graves ne peuvent plus se cacher. C'est toutes ces personnes qui, depuis l'Europe, les États-Unis et ailleurs, organisaient le financement à des groupes armés au Congo comme les FDLR, vont recevoir le message 5 sur 5 que ce sont des crimes et qu'ils peuvent faire face à la justice.
C'est en mai 2011 que le procès de Mouvana Chakaï et Moussouni avait commencé en Allemagne. Selon Human Rights Watch, il est maintenant temps d'arrêter le chef militaire de FDLR, le général Sylvestre Mudacumura, toujours dans l'est du Congo, et lequel continue de diriger des troupes qui commettent des crimes graves contre la population civile congolaise. Goma, Gisèle Cage, Radio Okapi.
Merci Gisèle Cage. Monsieur le gouverneur Julien Paluku, vous êtes gouverneur de la province du Nord Kivu. Comment avez-vous accueilli ce verdict?
Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est comme l'ont si bien dit les autres, c'est depuis 2009 que je suis particulièrement à ce procès en Allemagne. Quand j'ai appris effectivement que ces deux criminels ont été condamnés, j'ai un sentiment de satisfaction, mais mêlé d'une double insatisfaction. La satisfaction, c'est que lorsque les criminels sont condamnés, ça doit réjouir toutes les victimes au Congo, particulièrement au Nord Kivu, dans les Masisi, dans les Rutshuru, à Walikale, au sud de Lubero, des gens qui sont restés des orphelins à la suite de ces actes-là. Mais l'insatisfaction, la première, c'est que pour moi, j'estime que la peine est trop petite. Parce que comme a si bien rappelé le journaliste qui a introduit au début, Mourona Chaka n'a que 52 ans, il est né en 1963. S'il est condamné pour 13 ans, c'est que il va sortir à 65 ans et tous ces orphelins, toutes ces victimes des atrocités commises par les FDLR vont encore les revoir demain. Straton Moussoni, il est né en 1961, il n'a que 54 ans. Il est condamné pour 8 ans, ça veut dire à 72 ans il va sortir. Ces orphelins, ces veuves, ces veufs, toutes ces personnes qui sont victimes de ça vont encore les revoir. Donc ça c'est la première insatisfaction. La deuxième insatisfaction, c'est que deux personnes condamnées sur des milliers de criminels qui circulent encore à l'est de la RDC et dans toute la région des Grands Lacs, ça ne peut pas nous réjouir, nous, parce que c'est des gens, peut-être, que nous considérons comme une petite goutte. Vous vous rappelez qu'en 2008, je pense, les Rwandais avaient publié une liste de 6997 génocidaires qu'ils considèrent être disséminés partout à travers le monde. Et qu'aujourd'hui, on est condamné deux personnes sur 6997, si on peut croire à la liste qui avait été publiée par les Rwandais, je crois que nous avons encore à faire et il faudrait que cette condamnation ouvre effectivement la voie à plusieurs autres arrestations, non seulement les FDLR, mais comme je l'ai dit, tous les criminels qui se quittent dans la région de Grand Lac. Et cela réjouirait davantage les populations de l'Est, et particulièrement celles du Nord Kivu.
Et donc, votre réaction est mitigée?
Je pense que vous l'avez suivi, c'est cela. La peine est trop petite, c'est la raison pour laquelle je pense que s'il y a des instances qui sont habilitées à faire un appel à ces jugements, il faut qu'on les fasse, parce que 8 ans pour des gens qui ont provoqué des centaines de morts au Nord Kivu, pour moi, c'est trop petit. Même si c'est déjà une peine, mais par rapport aux vies humaines qui ont été ôtées au Nord Kivu, voir quelqu'un faire seulement 8 ans en prison, eh bien, cet orphelin-là, s'il est né hier ou avant-hier, il n'aura que peut-être à peine 2 ans de l'école primaire. Il va revoir les criminels revenir peut-être commettre le même crime après la prison. Donc c'est ça un peu les sentiments que j'exprime par rapport à ces jugements-là.
Monsieur le gouverneur, Mourona Chaka a été reconnu coupable de crimes de guerre en lien avec 5 attaques commises par les FDLR dans l'est de la RDC et de diriger une organisation terroriste. Moussoni, lui, a été jugé coupable de diriger une organisation terroriste, mais a été acquitté de l'accusation de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Il y a d'autres faits qui ont été relevés dans le déroulement de ce procès, des problèmes de traduction, des pressions sur les témoins et l'éloignement géographique, un procès qui se déroule très loin de la RDC où les crimes se sont commis. Comment vous analysez tous ces aspects mis ensemble?
Oui, effectivement, c'est tous ces aspects-là qui peuvent renforcer ma troisième insatisfaction, parce que lorsque ce procès a lieu à presque une demi-journée de vol d'avion, alors que les criminels se trouvent ici à l'est, ils ne les verront pas, ils ne verront pas comment ils sont châtiés, comment ils passent leur peine en prison. Ça va être comme une compassion au loin avec les victimes congolaises. Ça aurait été bon peut-être que le procès ait lieu à l'est de la RDC, que les gens voient comment ces gens sont condamnés, et ça pourrait renforcer effectivement les sentiments de voir les populations congolaises avoir la compassion des instances internationales, notamment les tribunaux internationaux, dont celui de Stuttgart en Allemagne.
Monsieur le gouverneur, quel a été le degré d'implication des autorités congolaises dans ce procès?
Non, moi je crois que les tribunaux sont indépendants.
S'il a été demandé une coopération au gouvernement congolais, je crois que la coopération a été obtenue. Ce que nous savons, c'est qu'au moins ces gens ont été arrêtés en Allemagne, ils circulent librement. Mais ce que je dois encore ajouter, c'est que le réseau FDLR fonctionne très bien en Europe, c'est-à-dire en Allemagne, en France et partout ailleurs. Et que ce que nous pourrions, nous, gouvernement, parti gouvernemental, demander davantage aux pays européens, c'est de rechercher tous ces réseaux, parce que ces réseaux qui alimentent effectivement cette coopération-là, je crois qu'elle devra être bien tissée entre le gouvernement congolais et les pays européens pour que les réseaux qui fonctionnent cessent effectivement d'alimenter tout ce qui se passe ici à l'Est et qui fait que ces gens ne tarissent pas d'avoir des moyens pour leur fonctionnement à l'intérieur de notre pays.
Alors, lorsqu'ils ont été arrêtés en 2011, le monde entier avait dit que les FDLR avaient été décapités parce que leur chef était aux arrêts. Là, M. le gouverneur, vous avez dit toute votre déception. En d'autres termes, ça n'aura aucun impact sur terrain, ce verdict.
Oui, vous savez, si vous voyez l'âge de Mourouana Chaka et de Straton Moussoni, en 1994, lorsque le génocide a été commis au Rwanda, Mourouana Chaka avait 31 ans et Straton Moussoni n'avait que 33 ans. Donc vous comprenez que à cette époque-là, c'était des jeunes gens. Et on peut se demander si réellement ce sont ceux-là qui avaient piloté la machine meurtrière au Rwanda, ou il y a encore d'autres qu'on a laissés de côté. Donc voilà pourquoi moi je crois que l'arrestation de ces deux personnes, ça réjouit à l'époque où ils étaient arrêtés, si vous permettez la tautologie, mais on a oublié que c'est des jeunes gens qui n'avaient que 31 et 33 ans en 94, et qu'il y a une série d'autres criminels qui sont restés et qui allègrement circulent à travers le monde. Donc nous pensons que nous devrions davantage multiplier des efforts pour qu'on identifie effectivement les grands réseaux de FDLR pour qu'on l'anéantisse, et c'est à ce moment-là qu'on peut croire à leur décapitation, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure.
Merci, Monsieur le Gouverneur. Maître Richard Bondo, vous êtes avocat au barreau de Kinshasa Gombe et président de l'ONG Avocats sans frontières, également conseil près la CPI et le tribunal spécial pour le Liban. Comment vous analysez ce verdict, maître?
Merci beaucoup de la question. Ce verdict est tombé, mais ma soif n'est pas étanchée. Je suis satisfait, comme l'a dit le gouverneur, parce que c'est une preuve que la justice combat l'impunité, mais c'est à quel pourcentage? Et puis, je m'interroge, pourquoi nous n'avons pas, nous, en tant que République démocratique du Congo, nous qui sommes victimes des exactions des FDLR. Nous avons été en quelque sorte absents à ce procès. Pourquoi? Parce que nous n'avons, la République ou le gouvernement de la République n'a engagé ni des avocats congolais, ni des avocats étrangers, allemands notamment, pour soutenir l'accusation en Allemagne contre ces gens. Aujourd'hui, vous savez, le gouverneur pleure, comme moi, le fait que ces criminels, ces délinquants, n'ont été condamnés qu'à des peines tout à fait dérisoires, et qu'ils peuvent, à l'expiration de ces peines, après les avoir purgées, redevenir encore plus virulents, parce qu'ils vont recouvrer la liberté au bout de 15 ans, au bout de 8 ans, et auront-ils déjà... Se seront-ils amendés pour arrêter leur plan machiavélique d'exterminer de pans entiers des populations congolaises? Parce que les crimes qu'ils commettent, ils ne les commettent pas au Rwanda, ils les commettent ici. Et puis, lorsque on juge ces gens, les témoins congolais qui devaient comparaître, est-ce que c'est le gouvernement qui les a pris en charge pour les accompagner, pour même payer les traducteurs de haut niveau, à même d'être de donner la traduction fidèle de leur témoignage au juge. Et tout ça, c'est des interrogations qui laissent ma soif tout entière, disons non entièrement étanchée. Et puis, ces crimes graves, tels que réprimés en Allemagne, pour moi, ça montre que il y a une solidarité internationale qui sottise au fur et à mesure que le monde change, pour que non seulement lorsqu'on tue les Européens, la justice intervienne, mais même quand on tue les Africains, la justice internationale ou la justice des pays civilisés s'occupe des délinquants. C'est déjà une avancée sur le plan international et sur le plan purement judiciaire. Et je salue la sagesse de ce juge qui a dit il ne s'agit pas d'un procès politique, mais c'est un procès pénal.
Maître Richard Bondo, cette émission est également pédagogique. Pour les auditeurs qui ne sont pas au courant des procédures et des affaires judiciaires, comment vous expliquez qu'un tel procès se soit déroulé en Allemagne?
Voilà. Ce procès s'est déroulé en Allemagne parce que notre justice à nous n'avait pas la capacité, n'avait pas les moyens d'arrêter d'abord ces gens. Et ces gens qui s'étaient réfugiés en Allemagne se sont retrouvés sur le territoire allemand avec entre leurs bras des casseroles de criminalité qui exigeaient de la justice allemande que l'impunité soit combattue. Et c'est comme ça qu'ils se retrouvent en Allemagne. Ils sont recherchés et quand ils se retrouvent sur notre territoire, la justice congolaise ne sait pas mettre la main dessus, mais ils se trouvent en Allemagne et l'Allemagne dit « Moi, Allemagne, j'ai été accusé à Nuremberg pour les mêmes crimes que ces gens ont commis. Et parce que nous combattons les génocides, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, qui sont des crimes internationaux, pénalement poursuivables. Est-ce que nous ne pouvons pas faire quelque chose? Et l'Allemagne a pris le dossier en charge pour juger ces trois personnes qui sont des criminels ayant commis des crimes indicibles. Mais moi, là où je me dis que ça s'est passé en Allemagne, et que la justice là est indépendante, c'est parce qu'il n'y a pas eu de pression. Les juges, s'ils étaient jugés en Afrique ou chez nous ici, peut-être on dirait que ces gens avaient la protection soit du pouvoir, soit l'opposition se serait servie de ce cas pour tirer à boulet rouge sur le pouvoir, ou bien le pouvoir n'aurait rien fait faute de moyens. Parce que nous n'avons pas de prison à même de garder ces gens pour éviter toute évasion. Voilà pourquoi nous disons, ça s'est bien passé en Allemagne, parce que là, les structures d'accueil et même l'indépendance caractéristique des juges ont milité pour que ces gens soient jugés dans un pays neutre, qui se trouve être l'Allemagne.
Merci. Descartes Mpongé, vous êtes président de la Société civile du Sud Kivu. Comment avez-vous accueilli ce verdict au Sud Kivu?
Oui, en fait, pour nous, contrairement aux deux intervenants, nous sommes très satisfaits parce que d'abord, nous savons que ce sont les juridictions congolaises qui devaient d'abord poursuivre en vertu du principe de complémentarité. Mais les juridictions congolaises ne l'ont pas fait. Voilà pourquoi la justice allemande ayant adhéré, l'Allemagne ayant adhéré au statut de la Cour pénale internationale, mais aussi ayant adhéré par exemple à la compétence universelle, a pris le devant pour assumer la mission qui revenait d'abord aux juridictions congolaises. Donc par rapport à ça, nous disons félicitations. Mais aussi, il faut rappeler que c'est un message aussi qui est lancé à l'endroit du Parlement congolais. Parce que comme vous le savez, ça fait plusieurs années que les ONG congolaises sont derrière la loi de mise en œuvre du statut de la Cour pénale internationale. Il n'y a que cette année, l'année passée, que l'Assemblée nationale l'a jugé recevable. Mais derrière l'adoption de cette loi, de cette proposition de loi, il y a beaucoup de politiques et la RDC ne veut pas faire un premier pas. Qu'est-ce qui coûte au Parlement congolais de voter cette loi et pour que les juridictions congolaises puissent avoir tous les outils nécessaires et poursuivre ainsi les auteurs des crimes internationaux? L'autre réflexion, c'est un message aussi qui est lancé aux organisations des droits de l'homme et aux organisations de la société civile pour qu'elles continuent le travail de monitoring, le travail d'encadrement des victimes et des témoins, mais aussi l'autre travail de documentation d'autres crimes mis par les groupes armés nationaux et étrangers, pas seulement les FDLR. Parce que vous savez, en matière de crimes internationaux, ils sont imprescriptibles. Et pour nous, nous disons, nous devons poursuivre le travail en tant que société civile. Mais l'accent que je voudrais, peut-être l'accent que je voudrais mettre, c'est qu'au niveau, nous avons lu les réflexions au niveau de Human Rights Watch, là on dit que la procédure allemande veut que les victimes soient connues, l'identité des victimes, l'identité des témoins qui participent à la procédure soit connue. Or, avec la CPI, il y a l'aspect protection des victimes qui compte plus. Mais si vous lisez un peu l'acte introductif d'instance ou bien les premiers documents, ils étaient poursuivis à plusieurs crimes. Mais faute de preuves suffisantes, la justice a dû abandonner certaines charges qui étaient mis à la tête de ces FDLR. Donc, en résumé, pour nous, disons que c'est une bonne chose parce que c'est la mission primaire d'abord des juridictions congolaises, mais c'est une interpellation. Que fait notre justice? C'est vrai, il y a eu quelques cas, un ou deux cas. Je suis au courant d'un cas d'un FDLR qui était poursuivi à Chabunda, par exemple, avec plus de 100 accusations, 100 chefs d'accusation. Mais qui ont été les audiences se sont déroulées dans le cadre des audiences foraines et pour nous disons la justice congolaise doit s'assumer. Il y a déjà eu beaucoup d'ateliers de renforcement de capacités.
Des cartes congolaises.
Oui.
Voilà, vous avez dit en début de votre propos que vous êtes très satisfait, mais il y a Freddy Musenguzi de Kolwezi qui dit le verdict est complaisant. Comment la justice allemande a pu évaluer les retombées aux conséquences de cette orchestration? Combien de morts et blessés dans ces crimes de guerre? Combien des victimes des viols? Il est vrai qu'en retour, ces chefs rebelles recevaient des dividendes sur les pillages des richesses de la RDC. Les quelques points n'équivalent point à 13 ou à 8 ans de prison.
Oui, en fait, non. Ça, c'est une mauvaise façon de réfléchir. Parce que là, on veut mettre la justice allemande avant notre justice. Il faut comprendre le principe de complémentarité. L'Allemagne n'avait pas une obligation primaire de poursuivre ses FDLR, mais c'est notre justice qui avait cette obligation. Mais aussi, c'est un signal qui est lancé à d'autres juridictions, à d'autres pays, pour que cette loi de compétences universelles puisse être activée pour qu'on arrive à traquer les autres. Mourana Chaka n'agissait pas seul, il bénéficiait de la complicité, soit au niveau de l'Allemagne ou bien d'autres pays, pourquoi pas au niveau peut-être de la République démocratique du Congo. Donc, la justice au niveau national devrait jouer un rôle de premier rang par rapport à ça. La peine, c'est pour nous, la peine, c'est vrai, on peut condamner quelqu'un à 50 ans, 100 ans de prison, non. Mais l'essentiel ici, c'est la fonction préventive et la fonction corrective de la peine. Donc, pensez que 8 ans, c'est peu, vous privez même de liberté pendant seulement 2 jours, c'est déjà grave. Ça vous fait réfléchir. Pour moi, j'ai dit, peut-être c'est déjà un pas, c'est déjà une jurisprudence qui est créée par la justice allemande et nous devons plus jouer le rôle de premier rang au niveau de la République démocratique du Congo.
Et donc, comme vous venez de le dire, également Maître Bondo l'a repris en disant que la RDC aurait par exemple agi en engageant des avocats congolais, voire allemands, pour renforcer l'accusation. En d'autres termes, la RDC a raté une très bonne occasion.
Ce n'est pas seulement dans cet unique dossier, il y a beaucoup de dossiers qu'on peut citer. Il y a les dossiers qui nous opposaient à l'Ouganda. On ne sait pas, nous avons gagné. Quelle est la solution qui a été donnée ou bien quelles sont les actions que la RDC a menées. Il y a les dossiers de 3 tonnes d'or qui ont été raffinés au niveau de la République suisse. Donc il y a beaucoup de dossiers où on voit que la République démocratique du Congo ne fait pas assez d'efforts pour mettre en avant, pour défendre les intérêts de la République démocratique du Congo dans des dossiers judiciaires comme ça. Voilà pourquoi nous disons, nous devons d'abord prendre cet arrêt, ces jugements comme une avancée par rapport à nous, mais surtout une interpellation urgente pour que notre justice agissent. Nous avons des bons magistrats dans ces pays qui ont déjà fait beaucoup de publications, qui ont déjà conduit des procès importants, par exemple. Mais pourquoi pas, on ne peut pas oser. Merci. Et quand on ose, souvent, c'est la sécurité. La CPI, dans les procès Taganda, la CPI voulait organiser des audiences in situ. Mais est-ce qu'elle a réussi à faire ça? Parce qu'il y a les conditions sécuritaires.
Merci
au
Descartes
niveau de l'entreprise, n'était pas aussi réussi.
Merci Descartes Mpongé. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Monsieur le gouverneur, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Patient Paul Ngoui, résident à Kinshasa, dans la commune de Mongafula. Je ne vois pas en quoi l'Allemagne peut s'en charger de ce dossier jusqu'à prendre la dernière décision sans que la RDC zone du théâtre n'est pas au courant. Et quel est le rôle de la CPI qui le tiennent d'autres chefs des différentes rébellions qui ont commis les mêmes effets et crimes dont leur condamnation tarde à venir? Je me demande si les autorités du pays étaient au courant et suivaient ces procès du fait qu'elles ne se sont jamais prononcées de son évolution. Dans cette condamnation, qu'est-ce que la RDC a bénéficié en termes d'une nation victime de conflits de la part de ces deux messieurs?
Monsieur le gouverneur.
Oui, l'auditeur de Kinshasa doit savoir que ces deux personnes, Mourana Chaka et Moussoni, vivaient en Allemagne. Ils ne vivent pas ni au Nord Kivu ni à Kinshasa. Ils ont été arrêtés en 2009 en Allemagne et le procès a commencé en 2011. Donc c'est tout à fait normal que ce soit le gouvernement allemand qui le fasse, parce que le tribunal, la loi allemande permet à ce qu'effectivement ce genre de criminels qui sont poursuivis pour crimes contre l'humanité soient jugés au niveau de l'Allemagne. Donc c'était tout à fait normal. Le niveau de la coopération de notre gouvernement, c'est la publication de toutes ces listes-là de criminels qui circulent, comme je l'ai dit, à travers toute l'Europe, à travers le monde entier. Et moi je crois que c'est cela qui a renforcé ma première satisfaction, le fait que au moins ces gens aient été condamnés et que les victimes sur le terrain au moins soient satisfaits de cela. Bien sûr, tout en reconduisant toute ma double insatisfaction comme je l'ai développé au début de cette émission. Donc je crois que la coopération du gouvernement congolais est totale et aujourd'hui, ce procès-là nous aide et ouvre vraiment la voie à beaucoup d'arrestations et je crois que ça sera l'honneur des populations congolaises lorsqu'ils trouveront d'autres criminels arrêtés.
Monsieur le gouverneur, en parlant des FDLR, où en est-on à ce jour avec le processus de rapatriement des FDLR qui sont en RDC?
Oui, depuis le mois de mai, lorsque eux-mêmes ont annoncé qu'ils allaient rendre délibérément les armes, on a récupéré près de 300 qui ont été cantonnés respectivement à Kanyabayonga et à Kisangani, mais il y a eu comme un coup de froid. J'ai allé dire dans les précédentes émissions que j'ai eu l'impression que les FDLR ont fait une opération de charme en disant qu'ils vont rendre volontairement les armes pour que les opérations ne commencent pas contre eux. Et finalement, nous nous sommes rendus compte que peut-être ils ont réussi le coup, parce qu'ils ont empêché à ce que les opérations ne commencent, étant donné que et le gouvernement congolais et les Nations Unies, la MONUSCO, tous se sont fondés sur la bonne foi de leur déclaration de décembre 2014, signalant qu'au mois de mai 2015, ils allaient commencer les cantonnements. Mais aujourd'hui, je peux affirmer sans risque d'être contredit que nous sommes tombés dans leur piège, et c'est la raison pour laquelle le gouvernement congolais a réaffirmé son intention de devoir détruire tous les retranchements des FDLR disséminés dans la province Nord Kivu et dans celle du Sud Kivu aussi.
Et qu'en d'autres termes, ce processus n'a été qu'un échec?
Oui, moi je peux dire que le processus de cantonnement des FDLR a été un premier échec. Ce sont des expériences que nous avons connues et qui nous ont amené à définir d'autres stratégies. On ne doit pas dévoiler ici par rapport aux opérations qui sont menées actuellement dans les territoires de Rutshuru, dans celui de Masisi et particulièrement à Walikale et aussi de Lubero, parce que le premier échec a permis à ce que le gouvernement définisse d'autres stratégies pour devoir affronter la nébuleuse FDLR.
Alors, monsieur le gouverneur, il y a Maître Bondo qui a relevé le fait qu'il s'agit là d'une solidarité internationale au niveau de la justice. Vous avez évoqué vous-même d'autres criminels qui courent encore à travers dans l'est de la RDC. Pensez-vous que ce verdict peut les dissuader, peut avoir une quelconque influence sur eux?
Non, moi, je pense que les FDLR pourraient même être satisfaits lorsque on condamne quelqu'un à 8 ans. C'est comme si on minimise les actions qu'ils sont en train de faire à l'est de la RDC. Et même si M. Descartes, le président de la société civile, essaie un peu d'affirmer le contraire. Moi, je crois que pour les FDLR, être condamné à 8 ans après avoir tué des centaines de Congolais et de Congolaises à l'est de la RDC, c'est comme pour dire, bon, ce que vous avez fait est minimisable à 8 ans, vous pouvez sortir. Je l'ai dit tout à l'heure, un enfant né après la condamnation, en deuxième année primaire, il va voir ses criminels. Donc pour moi, c'est un sentiment de satisfaction par rapport à la peine, dont le délai est très très court. Ça aurait été une condamnation à la peine capitale, ça aurait été une condamnation à perpétuité. Je crois que ça réjouirait les gens, parce qu'il y a des orphelins, il y a des veuves, il y a des veufs qui sont restés et qui ne voudraient plus voir les bourreaux des mains sortir et circuler librement.
Merci Maître Bondoya pour vous, cette réaction qui nous vient de Bukavu au sud Kivu.
Je suis Tanklé Matumaini, je vous appelle depuis la ville de Bukavu dans la province du sud Kivu. Cet arrêt n'aura aucun effet sur le terrain, car non seulement la majorité des victimes ne sauront pas si cette condamnation a été prononcée, les victimes ne recevront aucune réparation. Et ce n'est pas que si l'activisme des FDLR en RDC sera nul au regard du nombre de condamnations précédentes, mais qui n'ont eu aucun effet persuasif sur le terrain. La solution à la question des FDLR reste que les opérations des FDLR appuyées par une diplomatie agitante et surtout par la communauté internationale qui doit obliger au Rwanda d'accueillir ses citoyens. Sans cela, les condamnations ne seront que des peines perdues.
Voilà, je vous prie de nous excuser pour la qualité de cet élément sonore, Maître Bondo.
Merci beaucoup. Je crois que le compatriote du Sud Kivu retient contre le gouvernement certains griefs, bien sûr, parce que ce que ressent la population congolaise, c'est qu'elle est en quelque sorte abandonnée par son gouvernement, par ceux qui gèrent le pays, au simple motif que notre justice est incapable de juger ces criminels-là. Il y a, par exemple, aujourd'hui, malgré le fait d'avoir commis des crimes imprescriptibles, notamment ceux qui ont tué les femmes, les ont ensevelies vivantes à Makobola, à Kasiga, qui sont aujourd'hui dans la majorité, et il y en a même qui se disent porte-parole de la majorité. Quand on tuait ces femmes, ils étaient là, avec le RCD. Ces crimes-là, les mêmes crimes de ces gens, c'est les mêmes que ont commis les Mourouana Chaka, les Moussoni, mais ces crimes-là sont commis par les soi-disant nos compatriotes sur nos compatriotes. Les Rwandais, FDLR, commettent ces crimes contre nos compatriotes. Ceci revient à dire qu'il faut que le gouvernement... Moi, je suis d'accord avec mon compatriote, mais je lui dis, c'est l'action conjuguée et des politiques et des forces vives, singulièrement des forces sociales, la société civile, que nous puissions, par solidarité nationale, nous imposer sur la scène internationale pour que le tribunal spécial sur la RDC soit mis en place, afin que ceux qui ont commis les crimes de Makobola, de Kasiga, de je ne sais où, à l'est de la République, que ces crimes-là soient punis. Mais c'est la solidarité nationale, article 66 de la Constitution, qui doit sauver la patrie et faire rétablir les droits des Congolais qui sont aujourd'hui bafoué.
Maître Bondo, il y a Human Rights Watch qui demande dans son communiqué, je cite, que les autorités judiciaires allemandes devraient prendre des mesures pour s'assurer que les communautés affectées en RDC aient connaissance de ces verdicts importants, par exemple en veillant à ce que les victimes aient accès aux informations pertinentes. Est-ce que vous n'est-ce pas demander trop à l'Allemagne?
Non, c'est-à-dire ce communiqué de Human Rights Watch invite les dirigeants congolais à accéder à ce verdict et à le publier, même au journal officiel qu'on peut donner aux Congolais gratuitement. Parce qu'il y a par exemple les arrêts de la Cour constitutionnelle qu'on publie gratuitement au journal officiel. Mais cet arrêt-là, il peut, pour édifier ou apaiser certains esprits congolais, cet arrêt peut être publié, vulgarisé chez nous, pour que les victimes sachent que les bourreaux ou certains d'entre eux ont été quelque part dans un pays étranger condamnés. Et que faire pour que notre justice s'occupe de ces gens-là? Non seulement des gens de FDLR, mais également de tous ceux qui ont tué les femmes à Makobola, à Kasiga et ailleurs.
Il y a Jean-Paul Kassongo qui dit « Je félicite la justice allemande pour ce jugement. Cependant, je continue à penser qu'il faille trouver une solution durable à ce genre de problème en contrôlant la circulation des armes légères et de petit calibre et surtout créer des mécanismes internationaux de contrôle à l'égard des États producteurs d'armes, Maître Bondo. »
Effectivement, mais est-ce que nous, si nous n'avons pas les services de renseignement capables de dépister tous ces criminels? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, où il suffit de faire une déclaration, comme chez vous à la radio ou ailleurs, les services de sécurité sont derrière. Mais ces services doivent prendre en charge tous ces criminels, les traquer. Et même notre gouvernement, si on n'a pas le moyen peut-être de les juger chez nous, mais d'engager des actions judiciaires même à l'extérieur du pays. En dehors de notre pays, il y a des pays où ces gens vivent. La France, l'Allemagne, la Suède, tous ces pays-là, c'est des pays réputés de droits de l'homme. Il faut que la justice de ces pays prenne ces gens en charge, mais avec le concours de nos dirigeants.
Une diplomatie forte. Bref. Voilà. Descartes Mpongé, il y a pour vous cette réaction qui nous vient du Maniema.
Oui, je suis Joseph Mwamba Mukongo. Je suis à Wamaja dans le Maniema. À mon avis, le judice a une double importance parce que, de un, il constitue en partie la réparation du choc subi par les victimes des crimes causés par les troupes du FDLR dirigées par ces deux messieurs. Et de deux, c'est une façon de décourager les gens qui pensent que c'est par les armes qu'on doit accéder au pouvoir, réclamer un quelconque droit ou tout simplement déstabiliser une population quelconque.
Réaction des cartes Mpongé, est-ce que ça peut décourager les groupes armés qui pullulent dans l'est de la RDC, par exemple?
Oui. Même si vous voyez l'intensité même des crimes, au moins quand même on peut affirmer que l'intensité est très réduite petit à petit. Par rapport aux années 98, 2001 jusqu'à vers 2006, au moins aujourd'hui l'intensité, même si vous allez regarder dans les secteurs de l'exploitation des ressources naturelles, avant on voyait les FDLR contrôler les puits, ce sont eux qui vendaient même dans les marchés. Mais aujourd'hui, ils utilisent des personnes interposées, donc les stratégies changent au fur et à mesure que les événements, la pression continue. Et pour moi, j'insiste sur le fait que nous devons plus renforcer le travail par rapport à notre justice pour qu'elle arrive à jouer effectivement à son rôle. Parce que il y a beaucoup de cas, beaucoup de crimes qui ont été commis, beaucoup de présumés auteurs qu'il faut poursuivre, mais ce n'est pas la justice allemande qui viendra résoudre tous les problèmes judiciaires au niveau de la poursuite des criminels internationaux. Voilà pourquoi je plaide pour que notre justice soit renforcée. Malheureusement, on observe que beaucoup d'attention est affectée au niveau, par exemple, de la révision de la Constitution, des questions du référendum. Au lieu de focaliser l'attention sur les aspects comme comment renforcer notre justice, comment déclencher les premiers procès, parce que la justice a une mission préventive et c'est sur ça que nous devons travailler.
Descartes Mpongé, il y a plusieurs observateurs qui pensent que le dialogue inter-rwandais serait une solution à la question FDLR en RDC.
Bon, effectivement, nous, au niveau de la société civile, on a proposé qu'il fallait que les Rwandais puissent se parler. Mais vous savez, la souveraineté des États, on risque encore de dire que non, nous entrons dans la question de souveraineté des États. Ça, c'est vouloir justifier les criminels. On ne peut pas se dire qu'on est opposant contre un régime dictatorial, un régime répressif, pendant qu'on a les armes. S'il faut se battre, il faut qu'ils aillent se battre chez eux, pas chez nous au Congo. Toutes les victimes qui sont tuées. En janvier, on a décapité 70 personnes à les FDLR. Donc, ils devaient faire leurs revendications là chez eux au Rwanda avec les armes, pas chez nous au Congo. Et d'ailleurs, nous, on s'est dit, les camps de transit qu'on a mis pour les FDLR aujourd'hui avec la circulation facile des armes légères et petits calibres, c'est pas exclu qu'un jour les Rwandais puissent venir. Non, je dois attaquer ces FDLR qui sont à Kisangani, à Walungu et à Mbandaka parce qu'ils constituent un danger pour moi et ils ont déjà des armes. Donc, du coup, nous recommandons qu'effectivement qu'on prenne cette question au sérieux. Ça nous frise quand même le divorce entre l'armée, les FARDC et la MONUSCO. Et ça nous inquiète parce que c'est un problème qui risque encore de donner une cause de guerre pour les Rwandais pour qu'ils viennent encore chez nous, si jamais ils ne sont pas encore là, parce que nous avons appris qu'ils seraient déjà dans notre territoire.
Monsieur le gouverneur Julien Paluku, il nous reste moins de 5 minutes pour terminer l'émission. Il y a Evariste Kulimushi Litiza de Bukavu qui dit « Cette condamnation profiterait aux Congolais victimes de ces crimes si l'on pouvait identifier et boucher l'origine de l'armement des FDLR, remonter toute la filière et créer une unité armée spécialisée à désarmer des FDLR avec objectif de mettre définitivement ces derniers hors d'état de nuire à la sécurité dans l'est de la RDC. Sinon, il n'y aura pas de changement conséquent par rapport à cette condamnation. »
Oui, la nébuleuse FDLR est une complexité, pour ceux qui ne savent pas. Je crois que pour arriver à mettre fin, il y a plusieurs pistes. La première, il faut qu'on détruise d'abord les réseaux d'alimentation de ces FDLR à travers le monde. Ils ont un réseau très très puissant. C'est pas seulement au Congo qu'ils sont, mais ils ont un réseau très puissant. Depuis 1994, ils sont sortis. Ça fait pratiquement 21 ans qu'ils circulent à travers le monde, qu'ils alimentent les réseaux qui fonctionnent ici à l'intérieur. Donc, on doit chercher à détruire ces réseaux-là, comme l'Allemagne est en train de le faire. Deux, il faut qu'on poursuive les opérations. Mais trois, il y a un phénomène que les gens n'analysent pas souvent. C'est que en RDC, nous avons 245 000 réfugiés rwandais qui sont encore présents, dont 199 000 se trouvent uniquement au Nord Kivu. Et il y a une sorte de glissement, comme j'aime beaucoup ce terme, une sorte de glissement entre réfugiés et combattants. C'est-à-dire, on a 199 000 réfugiés au Nord Kivu. Les uns peuvent glisser à un moment donné vers les combattants, ils deviennent des combattants. Quand ils sont attaqués, ils reviennent encore, ils glissent vers les réfugiés. Et ça crée un problème réel d'identification de qui sont FDLR, qui ne le sont pas, entre les réfugiés rwandais qui sont présents sur notre territoire et les combattants qui sont aussi présents sur notre territoire. C'est ça la complexité de la problématique FDLR.
Monsieur le gouverneur, un bref message en swahili par rapport à ce verdict pour les populations du Nord Kivu. Très bref, s'il vous plaît.
Oui, tunashukuru kwanza kwa kuwa wale wa FDLR, yani mwana shaka na mstoni wameadhibiwa vikali, lakini tungelikuwa tunatamani ya kwamba wafungwe hadi mwisho wa maisha ya kwao kwa sababu wameuisha wakongomani wengi katika province yetu ya Nord Kivu.
Merci monsieur le gouverneur. Maître Richard Bondo, quelle serait finalement la solution durable à la question des FDLR en RDC?
La solution durable dépend de la conscience de nos dirigeants, c'est-à-dire une diplomatie forte qui convainc le Rwanda d'accueillir sur son territoire ses fils et filles qui errent ça et là sur notre territoire. Deuxièmement, que la justice congolaise elle-même arrête ces gens et les juge pour combattre l'impunité sur notre territoire, ce serait un signal très fort pour que ces gens militent pour rentrer au Rwanda ou, à défaut, passer des jours pénibles dans nos prisons sur le territoire congolais.
Mais la justice congolaise peine à se relever. La situation dans les prisons n'est pas la meilleure. Où allons-nous finalement?
Mais on a, vous savez, lorsque on veut aller loin, il faut savoir ménager sa mouture. Ce qui veut dire que le pays a vocation a pris une puissance. Et nous devons nous assumer parce que les moyens ne manquent pas. On a suffisamment de moyens, mais qu'on gaspille pour merci. Des futilités.
Merci. Descartes Mpongé, un mot en guise de conclusion.
Bon, un mot en guise de conclusion, c'est qu'il faut accélérer l'adoption de la loi de mise en œuvre. Il faut aussi accélérer la loi sur la création des chambres mixtes spécialisées parce qu'on a démontré que le tribunal pénal international est budgétivore. Mais aussi, il faut que la justice commence, les Congolais commencent à poser des actes. Mais aussi...
Merci Descartes Mpongé, c'est par vous que nous terminons cette émission. Vous avez des remarques ou des suggestions, écrivez-nous à dec@radiookapi.net, dec@radiookapi.net. Merci de votre attention, au revoir.